Interview BO par Benoît Bazerico.
Je suis avec Alexandre Delabaume, compositeur du film Le Ravissement de Iris Kaltenbarr, qui était présenté à Cannes à la Semaine de la Critique. Tout d'abord, Alexandre, vous exercez pour l'album et la scène dans différents groupes, notamment avec votre sœur Joséphine, et ensuite le passage au cinéma. Alors tout d'abord, cette double activité, comment vous la gérez ? Est-ce que pour vous c'est le même travail, se mettre au service également d'un récit, même pour vos albums ?
Moi j'aime bien justement travailler, même quand j'écris une chanson, un peu l'imaginer comme une histoire, comme un film, et du coup, d'une certaine façon, que ce soit une sorte de bande-son, certes plus personnelle, qui traduit des états intérieurs, des histoires que je me raconte et que je raconte. Mais oui, enfin, j'ai l'impression que le travail est assez proche. Après, sur un film, il y a évidemment plus de contraintes et une matière beaucoup plus riche sur laquelle je dois travailler, avec laquelle je dois travailler. Et ça, mais en même temps, parfois, c'est assez libérateur. Ça offre, notamment en termes de structure musicale, beaucoup plus de liberté parfois quand on est en train d'écrire une chanson et qu'on pense parfois à un format de chanson ou au format dans lequel parfois on se contraint inutilement. Mais voilà, je trouve que l'image, le rythme d'un montage peuvent parfois être assez libérateurs, et aussi la vision d'une réalisatrice ou d'un réalisateur peut inspirer des choses qu'on ne trouverait pas par ailleurs.
Et donc sur ce film Le Ravissement, comment la rencontre s'est faite avec la réalisatrice ?
Ça a été un certain nombre de rendez-vous ratés, parce qu'on a commencé à travailler une première fois, on avait pas mal d'amis en commun, et elle avait entendu des choses que je faisais, et moi j'avais vu un cours que j'avais beaucoup aimé, et sur son court-métrage de fin d'études à la FEMIS qui s'appelait Le vol des cigognes, elle voulait mettre un morceau de musique unique. C'est un film très direct, très sobre, dans lequel il n'y avait aucune musique pendant les 25 minutes qu'il dure, mais sur la fin elle imaginait peut-être une musique pour le générique de fin. J'aimais énormément le film, donc j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai fait beaucoup de propositions. Finalement, il y a une proposition que le monteur et elle ont beaucoup aimé, qui sont intégrées dans le montage. Et lors de la dernière projection montage, ils ont eu l'un et l'autre une évidence, il fallait du silence après le film, donc mon morceau est passé à la trappe. Mais c'était quand même resté comme une idée. Après, on a retravaillé ensemble, elle a fait la résidence émergence avec un projet qui s'appelait Les Perpétuels, qui finalement ne s'est pas fait. Donc on a fait le travail d'émergence ensemble, ça s'est très bien passé à nouveau. Mais le film, lui, ne s'est pas fait, ça a été très compliqué à... Et finalement, c'est Le Ravissement qui est devenu le premier long métrage d'Iris, mais comme c'est pour tout le monde, c'est assez compliqué de monter un premier film. Et ce projet est parti justement plus comme un geste. Il fallait faire un film, le faire vite, le faire avec les moyens à disposition. Ça a été enfin l'occasion de travailler au long cours ensemble, et une occasion qui s'est révélée formidable, quoi.
Quelle a été d'abord le premier contact avec le film ? Est-ce qu'il était déjà monté ?
J'ai eu la chance de pouvoir être impliqué dans le projet dès le scénario, même en partie en tant que consultant scénario. Donc j'étais assez familier avec le projet depuis le début. Et j'ai pu commencer à travailler dessus très tôt, ce que j'avais envie de faire, parce que je savais que le film allait se faire vite. Et du coup, je voulais quand même avoir de la matière et du temps et pas être dans l'urgence au moment de la post-production. Donc quand Iris a commencé son montage, ils avaient déjà un certain nombre de maquettes et d'idées qu'ils pouvaient commencer à poser. Donc j'ai aussi pu échapper au piège un peu des morceaux temporaires qui sont parfois compliqués à gérer pour un compositeur. Ils ont commencé à travailler directement avec la matière que je leur donnais. Ça a été en ce moment-là une discussion en permanence tout au fil du montage. Et on a pu travailler vite, mais avec quand même une espèce de catalogue déjà présent, ce qui nous a permis d'avoir de travailler justement pas trop dans l'urgence, quoi.
Thank you. c'est le film d'un mensonge, le film d'une imposture. Afsia Erzi incarne une sage-femme qui enlève l'enfant d'une amie pour justement, auprès de son compagnon, jouer le rôle de parent par procuration. Ça, donc, on le sait très vite. Et donc, dès le scénario, déterminer le placement de la musique, le rôle de la musique, sa juste place finalement, pour pas qu'elle soit trop envahissante, j'imagine. Quelles ont été les réflexions à ce stade-là ?
Et bah, je dirais qu'il y avait beaucoup d'écueils à éviter, quoi. C'était, et c'est un peu, ça nous a permis de trouver la juste voie, qui n'était pas évidente, mais ce que j'aimais dans le scénario, justement, c'est que c'était pas un film de, c'était un peu à la croisement au croisement des genres, mais de façon assez intéressante. C'est que c'est pas un film de faits divers naturaliste, c'est pas non plus un thriller. Il y a quelque chose d'assez romanesque avec cette voix off, c'est que c'est l'amoureux de Lydia, l'héroïne, qui raconte l'histoire et qui essaye de comprendre comment elle en est arrivée là. Une héroïne dont on est très proche, parce qu'on est allé de tous les plans et en même temps on s'interroge avec le narrateur sur elle. Et donc je voulais que la musique soit dans ce ton un peu romanesque, sans être excessivement daté. J'allais pas non plus faire une BO à l'ancienne, à la Truffaut, etc. Et il y a beaucoup d'éléments documentaires. Toutes les parties dans les maternités, le travail de la sage-femme, ils ont implanté Afsia Erzi à la maternité des Lilas. Ils l'ont filmé sur place avec des vraies femmes en train d'accoucher. Et en même temps, avec aussi cette dimension romanesque. Donc je voulais épouser un peu le lyrisme du film sans avoir une musique qui oriente trop dramatiquement le film. Ce que j'aime dans le film, c'est qu'il se passe une chose complètement dingue et tragique, et en même temps, le film n'est jamais dans la lourdeur d'appuyer le tragique ou d'appuyer l'angoisse de la situation. Je voulais que la musique ait cette dimension qui est déjà dans le titre, dans le ravissement et ce double sens. Il y a un côté un peu extatique et en même temps un côté dramatique, quoi.
En effet, le film n'est pas un thriller et c'est par la musique aussi qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que la musique à aucun moment ne joue justement le thriller, l'aspect policier. Peut-être que justement par son lyrisme et aussi par sa douceur, la musique joue peut-être pleinement le mensonge, fait exister ce mensonge. C'est-à-dire qu'avec la musique, on est dans ce côté maternant, avec des timbres plutôt doux. Est-ce que vous pouvez parler de cette instrumentation, ce choix vraiment de la douceur, peut-être pour se mettre à la place de cette mère fictive quelque part ?
Oui, c'est exactement ça. Le film ne veut pas la juger, il essaye un peu de la comprendre, de se mettre à sa place, et on voit ce glissement progressif vers le mensonge et ce que je trouve beau, c'est qu'on de façon extrapolée, on peut se mettre à sa place, on peut se dire oui, c'est une version fictionnelle et romanesque d'un mensonge, mais dans lequel on peut se retrouver, que c'est un mensonge d'une solitude, d'un manque d'amour. Et je voulais, oui, que la musique ait cette douceur qui est aussi dans l'image, dans la très belle image de Marine Atlan, la chef opératrice. Il y a déjà cette douceur dans le scénario aussi, dans la voix off qui essaye d'interroger, de comprendre. J'ai plutôt voulu avoir ce regard doux et compréhensif et empathique avec l'héroïne, et c'est pour ça que oui, il y a pas mal de guitares acoustiques dans le film. Il y a de la flûte, des clarinettes, des instruments et des instrumentations avec ces instruments plutôt douces. Thank you. pas non plus une bluette, donc y a des éléments légèrement angoissés. J'aime beaucoup par exemple certains airs de Ravel où il y a ce côté assez lyrique et doux et en même temps quelque chose ne va pas, donc une légère dissonance. Et ça, j'ai essayé de le chercher avec la musique, sans, à chaque fois en essayant de ne pas être lourd ou explicatif.
Oui, donc il y a cette douceur maternante, mais il y a aussi une tension, hein, des petites notes climatiques pour entretenir la tension, pour nous dire que, voilà, que quand même quelque chose de bizarre est en train de se passer. Mais il y a quand même aussi le jeu sur l'imagerie du bonheur, avec certaines scènes à la mer. Donc il y a cette idée aussi de tonalité lumineuse, hein, pour accompagner cette imagerie du bonheur, comme pour finalement participer, contribuer à l'illusion des personnages. Ça, c'était vraiment une discussion aussi avec la réalisatrice, en fait, que la musique puisse utiliser ce point de vue-là, de se mettre vraiment pleinement à la place du personnage.
Complètement, et d'ailleurs, c'était pas évident pour tout le monde. Il y a des gens dans l'équipe de post-production qui trouvaient ça choquant d'avoir un air, par exemple, sur la séquence de la plage, aussi, qui est un peu extatique, un peu lyrique. Mais en même temps, je trouvais ça beau, parce qu'on sait très bien que ça va être compliqué, quoi, que ce bonheur sera probablement de courte durée. C'est le moment où, finalement, l'héroïne s'autorise à vivre pleinement son geste fou et à se donner un bonheur qu'elle s'est toujours refusé, même s'il vient d'une invention complète et d'un geste fou. Et du coup, on trouvait ça avec la réalisatrice beaucoup plus beau de s'abandonner avec elle à ce moment de bonheur donc tragique, plutôt que de dramatiser les enjeux à ce moment-là, quoi. Ça nous semblait beaucoup plus émouvant et beaucoup plus fort.
C'est là où la musique, le rôle de la musique est très très fort, parce que c'est vrai qu'une autre musique aurait pu diriger vers autrement le regard. Et là, le regard, il est vraiment, c'est ça qui est audacieux, c'est ça qui peut choquer, c'est qu'on est devant un délit, et jamais la musique ne le qualifie comme un délit. Donc il y a une position morale, finalement. Qu'est-ce que vous pensez de la position morale du compositeur face à ce qui se joue sur l'image?
C'est très vrai, parce qu'on peut potentiellement complètement modifier le regard moral sur une situation par l'ambiance musicale qu'on va apporter par nos compositions. Et là, justement, le film veut surtout éviter d'être moraliste ou moralisateur. C'est pas son rôle libre au spectateur de juger les actes, mais je trouve c'est d'autant plus beau que le film ne force aucun jugement et que justement, et la musique y participe en étant plutôt en connexion directe avec l'héroïne dans ce long glissement vers une sorte de folie, qui est une folie nourrie de solitude, d'un besoin d'amour inconsolable.
La réalisatrice, quelle réalisatrice elle est pour un compositeur? Elle laisse complètement libre, ou alors au contraire elle oriente? Est-ce qu'il y a une direction de musicale de sa part, des références peut-être?
Il y avait une envie d'un cinéma qui s'autorise justement un certain, et d'une musique du coup qui s'autorise un certain lyrisme, mais avec des vrais thèmes parfois, et pas une musique non plus d'ambiance, ou une musique qu'il fallait assumer, voilà, des vrais moments de narration musicale. Un peu de Taxi Driver, parce que dans Taxi Driver il y a cette voix off très spéciale, avec une musique évidemment très présente. Il y a aussi la mélodie de saxophone, quelque chose d'assez doux parfois, alors que le film est vraiment pas doux dans ce qu'il raconte, mais justement en contact plus avec la solitude de ce chauffeur de taxi. Et donc ça, c'était une référence, mais sans, évidemment, après on n'est pas dans les années 70 et c'est pas non plus le même cinéma, donc mais plutôt dans la liberté qu'elle voulait me donner. Et oui, c'est pour le coup quelqu'un qui laisse très libre et qui avait plus des intentions, pas de pas de dramatisme, pas de moralisation. Elle voulait une vraie, que la musique, au même titre que la voix off, soit une vraie voix unique dans le film et un regard, comme je le disais, plutôt empathique sur cette situation.
Alors, il y a une chanson originale dans le film, ça fait longtemps, que vous avez écrite et interprétée par Clara Keller. Qui est Clara Keller et comment c'est, l'idée de cette chanson est apparue ?
Alors, c'est spécifiquement en fait une séquence importante où Lydia, l'héroïne, qui vient d'être quittée par son petit copain de longue date, arrive à l'anniversaire de sa meilleure amie pour lui, avec l'idée d'en parler avec elle. Quand elle réalise que sa meilleure amie est enceinte, enfin sa meilleure amie lui apprend qu'elle est enceinte, donc c'est ni l'endroit ni le moment pour parler de ses états d'âme. Et du coup, il y a une séquence de boîte de nuit. Et ça a été, en fait, c'est typiquement parce que j'ai aussi fait la supervision musicale du film. Et on cherchait quelque chose qui soit, qui ait un élément un peu mélancolique, mais qui soit en même temps une musique de boîte de nuit. Et finalement, on l'a jamais trouvé, donc j'ai décidé d'essayer de proposer quelque chose. Et je travaille en ce moment pour un autre projet avec une chanteuse suédoise qui s'appelle Clara Keller, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. Et en fait, on a vraiment essayé, on s'est dit, bon, c'est quoi une chanson triste de boîte de nuit, donc on s'est un peu creusé la tête et on a travaillé dessus longuement et on a fait des propositions à Iris. Et finalement, il y a ce morceau dans lequel on découvre, c'est le premier morceau dans la boîte de nuit, on voit Avzia qui regarde Nina Meurice célébrer pour son anniversaire. Elle est au fond du trou, mais son amie resplendit en début de grossesse, on lui fête son anniversaire et il fallait qu'il y ait cette double tonalité de tristesse et de fête, quoi.
Est-ce que c'est dans l'esprit des chansons que vous faites pour vos albums ?
Pas vraiment, c'était plus un exercice de style, parce que je fais pas vraiment de la musique de boîte de nuit, plutôt du rock avec Film Noir et des chansons à texte et assez cinématographique, mais d'une autre façon avec mon projet personnel. Donc non, c'était un peu un exercice de style, mais très amusant et chouette à faire.
Donc là, c'était le ravissement d'Iris Kaltenbach. Quand vous aviez fait, par exemple, en 2020, la comédie Éléonore de Amro Hamzaoui, là, j'imagine que la comédie, c'était un tout autre registre, de la comédie au drame. C'est une autre approche. On dit souvent pour les compositeurs que la comédie, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc après avoir fait une comédie, c'était peut-être plus serein d'aborder un drame ?
Oui, absolument, d'autant que, justement, la comédie va demander une certaine technique, en fait, finalement, un peu différente. Parce qu'il y a un jeu sur le rythme qui est essentiel. Moi, j'adore ce genre de défi, donc j'ai beaucoup aimé le faire, mais c'est moins dans ma nature immédiate. M'abandonner au lyrisme du film d'Iris Kaltenbach et aux émotions que me procurait son personnage principal, c'était très, finalement, assez naturel pour moi. Dans le film d'Amro Hamzaoui, même s'il y a aussi c'est aussi une histoire de solitude et que le personnage, je trouve, assez émouvant aussi. Il y avait quand même cet élément de trouver le rythme comique, etc. Mais c'était un défi qui était très chouette. Et j'ai travaillé avec un trio de jazz que je connais depuis longtemps. Ça a été un travail très chouette aussi, assez différent. On a enregistré beaucoup de la musique en pré-composée, ensuite enregistrée en live dans un studio. Donc c'était assez chouette à faire aussi.
Éléonore, donc c'était une héroïne, là également. La touche féminine de votre musique, comment vous la concevez pour ces personnages-là ?
Je suis touché par ces histoires, je suis surpris parfois justement par des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir d'entendre. Au cinéma, et ça m'inspire très directement. Je me pose pas trop la question des héroïnes en particulier, je sais des histoires portées et racontées par des femmes et qui me touchent d'autant plus.
Je crois que vous n'avez pas encore retrouvé une réalisatrice ou un réalisateur avec lequel vous avez travaillé, l'histoire de constituer des tandems comme cela. Votre activité pour le cinéma, est-ce que vous la concevez aussi dans cette idée de longue collaboration dans le temps avec quelqu'un ?
Oui, absolument. Après, c'est moins une question c'est plus une question d'opportunité et de la difficulté. On parlait de la difficulté de faire un premier film, il y a aussi celle du deuxième. Et donc beaucoup de réalisatrices et réalisateurs avec qui j'ai travaillé travaillent sur leur deuxième long, mais ça prend du temps. Ça ne dépend évidemment pas que de moi, mais je serais ravi de poursuivre ces collaborations.
Merci Alexandre Delabaume. Le ravissement de Iris Kaltenbach avec Afsia Herzi était présenté à Cannes à la Semaine de la Critique.